Sons d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. C'est demain que doit être votée la prolongation ou non pour 10 ans du glyphosate en Europe. Ce fameux pesticide au centre de toutes les polémiques est fortement soupçonné d'être cancérigène. L'occasion pour Accent de faire le point sur l'EFSA, l'Agence européenne pour la sécurité alimentaire, qui contrairement à l'ONU estimait que l'herbicide n'était pas cancérigène. Cette conclusion a provoqué de nombreux soupçons quant à la fiabilité de l'agence. Selon plusieurs ONG, l'EFSA a directement copié-collé une étude du géant américain des pesticides Monsanto pour rendre son rapport final. Alors, comment fonctionne l'agence européenne? Est-elle vraiment indépendante? Le reportage à Bruxelles de Lax Milota.
Et vous voyez que c'est en fait tout le chapitre.
Sur ses genoux, Franziska Harterberg de Greenpeace feuillette le rapport final de l'EFSA, l'agence européenne pour la sécurité alimentaire.
On voit que c'est exactement la même chose. Que, en fait, tout le chapitre a été repris, comme chez Monsanto, dans le rapport de l'Union européenne. On voit que toutes les pages sont les mêmes.
Des pages entières d'une étude du géant américain des pesticides, Monsanto, reprise intégralement dans le rapport de l'EFSA. L'agence européenne a conclu que l'herbicide glyphosate n'était pas cancérigène. Pour Michel Rivasi, eurodéputé vert, cette méthode de copier-coller est inacceptable. Elle demande la démission du directeur de l'EFSA.
Pour l'exemple, parce que quand on a un directeur qui va donner un avis scientifique, qui sera proposé à 28 États membres, et qu'il ne nous offre pas la garantie de l'objectivité des études qu'il a prises en compte, du fait que il a même pas vu où les experts ont été complices, du fait que il y avait énormément de mentions faites carrément par les industriels au sein de son rapport et que c'est pas sourcé, c'est-à-dire il l'indique pas, je trouve que c'est une faute professionnelle.
Mais l'agence européenne se défend de toute pratique illégale. La procédure est normale pour Guillaume de Cèze. Il est directeur du département d'évaluation scientifique des produits réglementés à l'EFSA. Explication sur le processus.
L'évaluation scientifique commence par un dossier qui est compilé par l'industriel. Ensuite, un État membre désigné prépare un dossier préliminaire. Il prend le dossier de l'industriel, il l'étudie. Tout ce qui lui paraît correct, tout ce avec quoi il est d'accord, il l'inclut dans ce dossier préliminaire. Ensuite, ce rapport préliminaire est soumis à tous les experts nominés par les États membres européens, donc les 28 États membres et la Norvège. En parallèle à ça, le rapport préliminaire est aussi soumis à la consultation du public. Donc tout ça est tout à fait transparent. La finalisation du rapport est faite par l'EFSA sur la base de tous les commentaires qui ont été reçus des experts nominés par les États membres et ainsi que les questions du public et les questions qui ont été posées à l'industriel au cours de ce processus d'évaluation. Donc l'EFSA reprend toute cette somme d'informations et prépare l'opinion finale sur la demande d'autorisation qui a été posée par l'industriel.
Cette méthode qui part d'une étude effectuée par l'industriel lui-même est-elle contestable? Angélique Delahaye, eurodéputée du groupe de droite PPE.
Considérer aujourd'hui que les conclusions de l'EFSA ne sont basées que sur l'étude Monsanto est une contre-vérité. C'est, à mon sens, profondément injuste. Si il y a une remise en cause des méthodologies utilisées par l'EFSA, c'est pas la faute de l'EFSA. C'est la faute de ceux qui ont créé les procédures. Et donc, si on n'est pas d'accord et si on considère que ces procédures ne sont pas bonnes, il faut les changer. Moi, j'y suis complètement favorable. Mais il faut faire une chose. Donner les moyens financiers à l'EFSA de produire elle-même ses études de façon indépendante. Or, aujourd'hui, elle n'a pas les moyens de le faire.
La solution est simple pour Franziska Harterberg de Greenpeace.
Effectivement, ces études doivent être payées par l'industrie. Mais ça ne doit pas être l'industrie qui commande ses études au laboratoire. Ça doit être indépendant. Ça doit être un laboratoire qui n'est pas en lien direct avec le producteur d'un produit chimique, bien sûr.
Après les révélations sur les Monsanto Papers, ces documents internes à l'entreprise rendus publics par la justice américaine, l'avocat Brent Wisner pensait que l'EFSA reviendrait sur ses conclusions, mais cela n'a pas été le cas. Brent Wisner représente des Américains qui ont porté plainte contre Monsanto.
Je trouve ça très étonnant. Au lieu de nous dire « c'est intéressant, quelles autres informations pouvez-vous nous donner sur le glyphosate ?», l'EFSA a répondu « ça ne change rien de toute façon, c'est problématique ». Car selon moi, en tant que scientifique, la première chose que je ferais, c'est d'essayer d'en savoir plus, pas de fermer les yeux. C'est vraiment inquiétant de la part d'une agence scientifique. Ça voudrait dire qu'elle ne souhaite pas vraiment découvrir la vérité.
Les Monsanto Papers révèlent que l'entreprise a sciemment écarté des études scientifiques concernant les effets cancérigènes du glyphosate. L'EFSA s'est déjà expliqué en audition publique devant le Parlement européen. Des eurodéputés veulent aller plus loin et demandent à présent une commission d'enquête sur le glyphosate.
C'est le symbole du retour du religieux dans la vie civile. En Turquie, le président Erdogan veut autoriser les mouftis et non plus seulement les officiers d'état civil à célébrer des mariages, ce qui suscite les craintes des féministes et des défenseurs de la laïcité à Istanbul, Anne Andlauer.
En Turquie, jusqu'ici, les choses étaient claires. Le mariage civil, le seul reconnu par l'État, était célébré par un maire ou autre officier d'état civil. Le mariage religieux, facultatif, dans cette république encore officiellement laïque, est à la charge des imams. Il reste assez courant et se célèbre en général avant l'union civile, mais il n'a aucune valeur juridique. Ce que le parti au pouvoir propose, c'est d'autoriser des mouftis à célébrer des mariages civils. Les mouftis turcs sont diplômés des facultés de théologie et employés par la présidence des affaires religieuses, la Diyanet. Cette Diyanet, créée par Atatürk, le premier président et fondateur de la République, est une institution dépendant du Premier ministre. C'est elle qui forme, nomme, révoque et salarie les personnels religieux, musulmans sunnites, s'entend, dont les mouftis, spécialistes du droit religieux. Si le projet de loi est adopté en l'état, il sera désormais possible à un couple qui le souhaite de célébrer son union religieuse et civile en même temps sous l'autorité d'un moufti. Le président Recep Tayyip Erdogan, fervent défenseur de cette mesure, ne voit pas le problème. Les mouftis sont des fonctionnaires. Il est donc naturel, selon lui, qu'ils aient aussi le droit de célébrer des mariages. Que vous le vouliez ou non, cette loi passera au Parlement, a-t-il lancé à ses détracteurs. Car une partie de l'opposition s'y refuse farouchement. Elle y voit un nouveau coup porté au principe de laïcité. Cela pourrait aussi, craignent les associations féministes, encourager le mariage de filles mineures, car on sait qu'aujourd'hui encore, certains imams sont peu regardants sur l'âge de la mariée au moment de célébrer un mariage religieux. Dernier argument de ses opposants, cette mesure créerait une discrimination entre les Turcs musulmans sunnites et ceux d'autres confessions. Car jusqu'à preuve du contraire, les rabbins ou les prêtres turcs ne sont pas autorisés à célébrer des mariages civils.
We'll be proud to say. I am an European.
En avril dernier, une loi votée par la majorité du Premier ministre nationaliste Viktor Orban provoquait une vague d'indignation. 70 000 personnes défilaient alors dans les rues de Budapest pour protester contre la fermeture annoncée de l'Université d'Europe centrale, une université américaine fondée dans la capitale hongroise par le philanthrope américain George Soros et qui est devenue la bête noire d'Orban car elle forme des esprits critiques. Depuis, la Commission européenne a menacé la Hongrie de poursuites car cette loi est contraire aux traités européens. En ligne de Budapest, Florence Labruyère. Bonjour Florence. Il y a quelques jours, le Parlement hongrois a modifié la loi controversée.
Oui, et cette modification donne un an de répit à l'Université d'Europe centrale. À l'origine, elle avait jusqu'au 1er janvier 2018 pour se conformer à la loi. Et cette date a été reportée au 1er janvier 2019.
C'est une bonne nouvelle alors. L'université n'a plus d'épée de Damoclès au-dessus de la tête.
Oui, à première vue, c'est un soulagement pour l'université qui est assurée de pouvoir rester l'année prochaine à Budapest. Elle peut donc lancer les inscriptions pour la rentrée 2018. Mais cette concession apparente du gouvernement hongrois laisse en fait l'université dans le flou total. Il faut rappeler que la loi demandait des choses presque impossibles à l'université, qu'on appelle ici CEU, alors qu'elle n'a pas vocation à enseigner aux États-Unis, car sa mission est de former les jeunes en Europe. La loi exigeait que CEU ouvre un campus en Amérique. Elle a réussi à le faire. Elle a signé un accord avec le collège Bard, une prestigieuse université de New York, qui va héberger des programmes d'enseignement de CEU. Autre exigence de la loi, pour que l'université continue à fonctionner en Hongrie, il fallait qu'un accord soit signé entre les deux gouvernements, américain et hongrois. Une demande irréaliste, car aux États-Unis, c'est pas le gouvernement fédéral qui est compétent en matière d'enseignement, ce sont les États. Et le département d'État américain, le ministère des Affaires étrangères, l'a répété sur tous les tons à Budapest, jusqu'à ce que Viktor Orbán accepte qu'une délégation hongroise traite avec le gouverneur de l'État de New York. Alors la délégation hongroise est rentrée à Budapest en septembre en disant « ça y est, on a négocié un accord avec l'État de New York, il ne reste plus qu'à lui signer ». Donc CEU remplissait toutes les conditions imposées par la loi. Et voilà, soudain, le gouvernement hongrois lui accorde un délai d'un an dont elle n'a plus besoin. Et le ministre de l'Éducation vient de déclarer « Oh, il n'y a aucune raison de signer cet accord maintenant, puisque la date butoir est repoussée d'un an ».
Alors Florence, pourquoi ce refus du gouvernement de Viktor Orbán de signer l'accord ?
Eh bien, en ce moment, Viktor Orbán mène une nouvelle campagne contre l'Américain George Soros. Une campagne destinée à galvaniser son électorat à 6 mois des législatives. Alors, cet électorat ne comprendrait peut-être pas que le gouvernement signe un accord avec l'université fondée par l'Américain que l'on vilipende tous les jours dans les médias. Mais pour certains observateurs, il est clair que Viktor Orbán joue au chat et à la souris avec l'université. Un jeu cynique qui vise à maintenir CEU dans l'incertitude, peut-être pour la pousser à quitter d'elle-même la Hongrie.
Florence Labruyère, notre correspondante en Hongrie. Elles sont loin, à plus de 2000 km de Madrid, en plein océan Atlantique. Les îles Canaries sont souvent décrites comme un coin de paradis. Un paradis qui n'est pourtant pas en dehors du monde et qui se retrouve aujourd'hui au cœur des flux migratoires. Cette ancienne route de migration a été réactivée depuis que les passages par la Turquie sont devenus plus difficiles. De nombreux migrants se sont noyés en tentant de rejoindre les îles depuis le Maroc. Mais il y a aussi des histoires qui finissent bien. C'est celle de Kingsley Odiezie que nous allons vous raconter. Ce Nigérien a fui son pays à l'âge de 17 ans. Après des années d'errance, il travaille maintenant dans le club de foot de Las Palmas, qui joue en première division espagnole. Antonin Vabre l'a rencontré.
Las Palmas de Gran Canaria, au large du Maroc, une île paisible où il fait bon bronzer pour les moins actifs ou surfer pour les plus téméraires. Et puis il y a les autres, ceux qui viennent regarder l'océan, ses vagues et toute sa symbolique. Se souvenir aussi que la mer peut être dangereuse pour les moins chanceux. C'est le cas de Kingsley Odiezie.
J'ai un très grand respect pour la mer, parce qu'elle représente tellement plus que ce qu'on pense. On y voit les gens jouer, vivre et mourir. Comme je le dis toujours, la mer donne, mais elle prend aussi.
Parmi ceux qu'elle a pris, il y a un proche de Kingsley.
Mon cousin y a perdu la vie. Il a essayé de me suivre et ça n'a pas marché pour lui.
Eramo, son cousin, qui a donc rejoint le destin de milliers de migrants, celui de mourir noyé lors de la traversée de la Méditerranée. Kingsley, originaire de Benin City, orphelin à l'âge de 13 ans, a lui survécu à un long périple avant d'atteindre l'Europe.
Moi, je suis d'abord parti du Nigeria et je suis passé par le Niger, ensuite l'Algérie, puis le Maroc. Et enfin, je suis arrivé à Ceuta.
Régularisé à Ceuta, il rejoint la péninsule ibérique en ferry. Il la quitte 10 ans plus tard pour retrouver son frère à Las Palmas. Depuis la saison dernière, il est devenu Utillero au club qui évolue en Liga, la première division espagnole. Utillero, magasinier. Homme à tout faire. La ville dort encore, mais dans le stade de Gran Canaria, quelques fourmis sont déjà sur le pont. Avec son chef Fernando et Carlos, ils mettent tout en place pour que les joueurs ne se concentrent que sur l'entraînement de foot. Le Nigérian prépare les affaires de chaque membre de l'effectif avec minutie.
Chaque entraîneur, chaque joueur a ses chaussettes, son caleçon, son numéro. Ce numéro, c'est pour identifier à qui ça appartient. En arrivant le matin, on met le tout à la disposition de chaque joueur. Ils le prennent, ils s'habillent, etc. Et au boulot.
Kingsley lavait des voitures à son arrivée sur l'île. Comme cela se produit pour certains joueurs de foot, sa persévérance est repérée. Il rejoint une société de nettoyage avant que Fernando ne le fasse entrer dans une autre dimension.
Je le connaissais déjà, c'est un bon gars et un bon travailleur. Il me manquait un collègue, il a accepté le poste et maintenant il est ici.
Recruté la saison dernière, Kingsley a vite été adopté par les joueurs du club. Sa bonne humeur contagieuse est appréciée, notamment par l'emblématique capitaine du club, David Garcia.
Il est toujours content d'être là. Il fait beaucoup d'heures ici, comme tous les outilieros. Il ne s'arrête jamais. Chaque fois que tu lui demandes quelque chose, il le fait volontiers et toujours dans la bonne humeur.
Le lien entre l'outillero et Las Palmas remonte en fait au 16 mars 2013. Ce jour-là, les jaunes et bleus accueillent la réserve du Real Madrid, la Castilla. Invité au stade par un client dont il lavait la voiture, Kingsley repart avec le maillot de son compatriote, Macaole Crisantus.
J'étais juste en haut ici. Le joueur était sur le banc, quelqu'un lui a dit « Regarde, un mec de chez toi avec le drapeau de ton pays ». Après le match, il a couru vers moi. Pour mon premier jour au stade, j'ai eu le maillot d'un joueur.
King, comme l'appellent les gens sur l'île, n'est pas qu'un bon vivant qui raconte de belles histoires. C'est surtout un gros bosseur capable d'abattre des journées de plus de 12 heures. La sérigraphie, plier les maillots, préparer les chaussures, Kingsley fait tout. Et son gros plus, il connaît les manies de chaque joueur.
Chimo Nabarro, lui, il aime les chaussettes fines, avec une couleur bien précise. C'est différent de celle-ci, on peut le voir. Cette chaussette est plus noire, celle-ci est plus claire. Ce sont des détails propres à chaque joueur.
Conscient de vivre une sorte de conte de fées à l'heure du bilan face à la mer, il ne recommande pourtant l'exil à personne. Pour lui, la clé du succès est ailleurs.
Peu importe où tu te trouves, ce qui importe, c'est ce que tu crois, ce que tu peux faire pour changer ta situation. Changer de pays ne va pas résoudre tes problèmes. Ce qui peut changer ta vie, c'est de croire en toi. Une bonne estime de soi vaut bien mieux qu'un million de dollars. Si tu crois en toi, tu peux être une bonne personne. Et ce que je dis à mes amis, c'est de ne pas tout risquer pour venir ici.
D'ailleurs, King rêve de retourner dans son pays contre vents et marées dans un but bien précis, apporter son expérience au Nigeria. Il travaillait un jour avec l'équipe nigériane qui vient de se qualifier pour le mondial en Russie.
Grandes avenues austères, bouchons désespérants, Moscou conserve une image de ville hostile. Pourtant, la capitale russe se métamorphose. Ces dernières années, Moscou est un chantier permanent. La municipalité a investi des sommes colossales pour rendre cette mégalopole de 12 millions d'habitants plus vivable. Inauguré en plein cœur de la capitale, le parc Zariadier est le symbole de cette transformation, Étienne Bouche.
Pour prendre la mesure du changement, il faut se souvenir que jusqu'en 2006, il y avait à cet emplacement l'hôtel Rassia, un immense bloc de béton soviétique qui abritait plus de 3000 chambres. Sa démolition a suscité les convoitises. Le terrain fait plus de 10 hectares, il se trouve juste à côté de la place Rouge, au bord de la Moscova. Les investisseurs sont déchaînés. Les moscovites se sont longtemps demandé ce qu'allait devenir ce terrain vague en pleine ville. La municipalité a finalement tranché et décidé d'y aménager un parc. Comme prévu, l'inauguration a eu lieu le jour de la fête de la ville, même si manifestement, les travaux ne sont pas tout à fait terminés. Alors que les ouvriers et les fleuristes poursuivent leur travail, les nombreux visiteurs découvrent des panoramas inédits de la capitale. Ce nouvel espace vert a coûté l'équivalent de 200 millions d'euros. Il est composé de plusieurs zones botaniques, chacune représentant un paysage russe avec sa flore spécifique. Le visiteur peut traverser une toundra, une steppe et même visiter une grotte de glace. La direction du parc explique qu'un système de contrôle climatique assuré par des lanternes infrarouges permettra aux plantes habituées au milieu chaud de résister à l'hiver moscovite. Depuis la passerelle en forme de V, on peut admirer les gratte-ciels staliniens, les coupoles dorées du Kremlin, la célèbre basilique de la Place Rouge. À sa pointe, les appareils photos sont fébriles. Pour la municipalité, le parc Zariadier est un nouveau symbole de la modernisation de la ville. On y trouve restaurants, salles de conférences et musées souterrains. Sous une colline recouverte par un dôme, une philharmonie est actuellement en construction.
À la réalisation, il y avait Ludivine Amado. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans quelques instants, les infos.